C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
Et alors que l'obligation du port du masque va tomber samedi dans les commerces, les pharmacies encouragent à continuer de le porter chez elles.
Ouais, surtout dans les zones où sont vendus des médicaments et où des services de santé sont prodigués. L'Ordre des pharmaciens, des associations de pharmaciens et les bannières de pharmacie font valoir que, comme dans les cliniques médicales par exemple, les pharmacies représentent un milieu de soins où des patients vulnérables se présentent tous les jours. Les pharmaciens invitent donc à porter le masque pour protéger les patients et le personnel afin d'éviter des éclosions et assurer le maintien continu des services à la population.
Merci. Rendez-vous dans 60 minutes, Valérie. Kat, on va avoir une fricassée de nouvelles.
Oui, on va être dans la fricassée de nouvelles. On va se parler d'une tournée commune entre le groupe Les Smashing Pumpkins. Je suis pas capable de le dire. Ça fait 20 fois que je le répète. Dans
Smashing
le
Pumpkins.
Oui, je le sais, mais il y a quelque chose qui fonctionne pas entre les S, les M, les P.
C'est les citrouilles écrasées.
Exactement.
Bon, parfait. Et Jane's Addiction.
Les citrouilles écrasées.
Ouais. Et l'addiction de Jeanne. On va être là. Non, mais ça va être bon pour vrai.
Les Smashing Pumpkins.
Pierre-Yves, on va parler de poilièvre pullisme.
Oui, t'aimes ça, hein?
C'est toi qui l'inventes.
C'est pas ton meilleur jeu de mots.
Ah, je le trouve très bon parce qu'il y a peau puis pullisme. Poilièvre pullisme. Ah, en tout cas, je vais t'en parler tantôt puis je vais te parler. Est-ce qu'on est dans une stratégie ou dans une erreur stratégique? Puis je fais lien avec l'économie, la crypto, le vieillissement de la population. Ça va être sympathique.
Très bien. Monsieur Ferrandez, il y a des groupes écologistes qui intentent une poursuite contre le ministre Guilbeault à cause de Baie-du-Nord.
Oui, puis je me suis demandé, suite à un courriel que tu m'as envoyé ce matin, est-ce que les groupes écologistes se radicalisent? Et j'aimerais faire un tour de la question avec ça.
Parfait. Et monsieur MC, tu vas nous donner un cours 101 de civilité et de savoir-vivre?
Je me suis dit... Pour une troisième journée en ligne, je chialerai pas quand même. Je vais rendre ça positif.
Je pense tu vieillis, hein?
Ah oui, je vieillis tout d'un coup. Je pense que on devrait avoir un cours à l'école de civilité, de savoir-vivre. Je me suis dit, pourquoi je le ferais pas? Donc, en cinq minutes, tu sais, tenir la porte, sourire, dire merci. Là, vous allez me dire, ben voyons donc, on sait tout ça. Dire vous à une personne plus âgée. On sait tout ça? Je ne crois pas, non. Parce que ça ne s'applique plus dans ma vie autour de moi.
Bon, allons parler de tic.
Ouais.
OK, une nouvelle étude sur la tique, et je cite l'anaplasmose granulocytaire humaine. C'est une nouvelle infection transmise par la tique qui s'est installée au Québec, particulièrement en Estrie. On va parler de tout ça avec Dr. Alex Carignan, microbiologiste infectiologue au CIUS de l'Estrie, CHUS et prof à l'Université de Sherbrooke, co-auteur de cette nouvelle étude. Salut Alex!
Salut Patrick, je suis toujours là pour porter des bonnes nouvelles.
Ben, sais-tu quoi? Je le disais aux auditeurs un peu plus tôt quand j'annonçais que tu allais être avec nous en début de troisième heure. Au moins, t'es pas là pour une fois pour nous parler de la maudite pandémie.
Oui, effectivement, on peut voir le verre à moitié plein.
OK, c'est quoi anaplasmose granulocytaire humaine?
Bon, on peut dire simplement l'anaplasmose. En fait, c'est une maladie, une infection qui est transmise qui est causée par une bactérie qui est transmise par la même tique qui cause la maladie de Lyme. Donc, malheureusement, c'est une infection qu'on voyait venir depuis quelques années parce qu'il y a des programmes de surveillance des tiques. On attrape des tiques, on les teste et on savait que parfois elles étaient porteuses de cette bactérie-là responsable de l'anaplasmose. Et là, l'an passé, en fait, on a eu vraiment un début là d'épidémie, si on peut le dire ainsi. Puis effectivement, bon, un travail avec l'Agence de santé publique du Canada, la Direction de santé publique de l'Estrie, l'Université de Sherbrooke, on s'est penché là-dessus pour décrire en fait les premiers cas qui ont été observés, 25 cas qui ont été observés en Estrie, principalement dans la région de Bromont, Coansville, Granby.
Puis dis-moi, comment les gens réagissent quand ils sont piqués par la tique? Est-ce qu'ils pensent qu'ils ont la maladie, qu'ils risquent la maladie de Lyme?
C'est différent comme présentation parce que ça va vraiment ressembler en fait à un syndrome d'allure grippale. Ça ressemble à une grippe. On va avoir de la fièvre. Entre autres, les patients de notre étude, 100% des patients avaient de la fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires. Donc, ça ressemble à une grippe, mais évidemment, faire une grippe au mois de juin, juillet, c'est pas normal. Donc, c'est aussi des gens qui avaient été exposés à l'extérieur. C'est ce qui a mené au diagnostic. Là, d'ailleurs, je dois saluer les médecins, entre autres à Granby, Coansville, qui ont été, disons, très alertes pour diagnostiquer ces premiers cas-là, parce que c'est toujours difficile de diagnostiquer les premiers cas quand on n'a jamais vu, mais ils ont été alertes et ils ont posé le diagnostic, ce qui a permis un traitement rapide des patients. Puis ça aussi, c'est une bonne nouvelle quand même, c'est une maladie qui répond très bien au traitement antibiotique.
Donc, il y a un traitement pour ce qu'on appelle l'anaplasmose granulocytaire humaine, contrairement à l'autre maladie qui est transmise par la tique, la maladie de Lyme.
Bien, la maladie de Lyme, ça, c'est aussi un mythe qu'on entend souvent, qu'il n'y a pas de traitement, que c'est une maladie incurable, mais dans la grande, grande majorité des cas aussi, quand même, il faut dire que ça se traite, ça répond très bien. Puis d'ailleurs, d'ici probablement 2 à 3 semaines, on va sortir une autre étude où est-ce qu'on s'est intéressé vraiment à près de 300 patients qui ont été traités en Estrie, en Montérégie, pour regarder leur évolution clinique suite au traitement. Puis je veux pas divulgâcher, mais il y a quand même des très bonnes nouvelles aussi à ce niveau-là.
OK. Anaplasmose et maladie de Lyme,
on
c'est...
On en parlera.
Oui, oui, parfait. Ça, on va te recevoir. Ça me fait toujours plaisir de parler de petites bébites avec toi. Mais là, anaplasmose et maladie de Lyme, c'est la même tique. On se protège comment? Dis aux gens comment ils peuvent se prémunir, disons, d'être piqués par cette tique-là.
Bien, je pense qu'il faut changer nos habitudes. C'est pas de faire peur aux gens puis d'éviter de l'extérieur. Moi-même, je suis un maniaque. Quand je pars à l'hôpital la fin de semaine, je passe mes fins de semaine dans le bois. J'ai d'ailleurs retrouvé une tique sur la tête de mon chien la semaine dernière. Mais il faut changer nos habitudes. Bon, évidemment, il y a le port des vêtements longs. Lorsqu'on est à l'extérieur, c'est pas toujours facile quand il fait 30 degrés. Quand on est à l'extérieur, on peut utiliser les insecticides à base de DEET. Mais je dirais le plus important, probablement, faut intégrer une inspection à la fin de la journée. On regarde, parce que les tiques vont avoir tendance à mordre dans des endroits particuliers, les plis, derrière les genoux, les coudes, les aisselles, derrière les oreilles. On regarde ça chez notre conjoint, notre conjointe, les enfants, je dirais même les chiens. En flattant mon chien le soir devant la télé que je me suis rendu compte qu'il y avait une tique, mais donc il faut vraiment intégrer ça. Aux États-Unis, en fait, la maladie de Lyme, l'anaplasmose, c'est présent depuis plusieurs années dans le nord-est des États-Unis, et eux, ils ont mieux intégré justement ce qu'ils appellent le tick check à la fin d'une journée en plein air. On regarde, parce que plus tôt on l'enlève, moins on a de chances qu'elle transmette ces maladies-là.
Et tout ce qui est canin intéresse Catherine Beauchamp, elle a une question. On a besoin du micro de Catherine.
Merci. J'ai une question parce que la tique, au départ, moi, j'ai déjà eu un chien qui a eu une tique et elle était relativement plus grande. Et ça prend du temps pour que la tique puisse grossir. Donc, au départ, c'est difficile de se rendre compte à quel point elle est soit dans le corps humain ou dans le corps canin.
Oui, absolument. C'est la même chose. Puis en fait, il y a plusieurs stades de tique. On peut passer ce qu'on appelle la nymphe, qui est vraiment minuscule, à la larve, à la tique adulte, puis on va vraiment de plus en plus gros au niveau de la tique. Donc, effectivement, au départ, ça peut parfois être difficile. Parfois, c'est un petit point noir à peine plus gros qu'une tête d'épingle. Et effectivement, lorsqu'elle se nourrit, parce que la tique peut rester attachée jusqu'à 7 à 10 jours, là, elle va grossir, elle va se gorger de sang, se gonfler, puis là, souvent, effectivement, elle devient plus facile à détecter, mais quand même, on peut la détecter précocement et on peut la retirer. Donc, simplement, on n'a pas besoin d'outils sophistiqués, simplement avec des pinces à épiler, on prend la base et on tire vers le haut d'un mouvement continu.
Je pensais qu'il y avait quelque chose avec le sens des aiguilles d'une montre ou le contraire, là.
Non, idéalement, on essaie d'éviter justement de tourner. On y va en montant simplement une pression constante vers le haut.
OK. Alex, tandis que tu es au bout du fil, il y a un mystère médical présentement. Il y a des enfants, ça s'est vu au Canada, ça s'est vu aux États-Unis, je pense, qui sont frappés par une maladie du foie, une maladie hépatique qui semble assez inquiétante, assez grave. Qu'est-ce qu'on sait puis qu'est-ce qu'on sait pas là-dessus?
Je dirais que malheureusement, pour l'instant, on n'en sait pas plus qu'on en sait. Ce qu'on sait, c'est que généralement, les hépatites chez les enfants, c'est très peu sévère. Puis là, ce qui est un peu, ce qui est quand même inquiétant, c'est qu'il y a de nombreux cas un peu partout dans le monde et ça a résulté, dans plusieurs cas, dans des cas très sévères qui ont même nécessité des transplantations de foie. Donc, là, par contre, au niveau de l'étiologie, là, c'est vraiment encore il y a des investigations un peu partout dans le monde. Il y a plusieurs hypothèses. Il y a, bon, un adénovirus, un autre type de virus qui a été potentiellement incriminé. Il y a aussi la COVID, des syndromes inflammatoires post-COVID qui ont été incriminés, mais ça n'a pas été encore clairement, disons, déterminé quelle est la cause exacte. Est-ce que ça peut être plus d'un pathogène Est-ce que ça peut être un nouveau pathogène qu'on ne connaissait pas jusqu'ici? C'est en investigation. Ça aussi, on aura sûrement l'occasion de s'en reparler.
Merci, Alex. Toujours un plaisir.
Ça fait plaisir. Au revoir.
Salut. C'était le microbiologiste infectiologue au CIUSSS de l'Estrie et prof à l'Université de Sherbrooke, Dr. Alex Carignan.
Patrick Lagacé en accéléré.
Si vous avez vu les images, ça glace le sang. Là, il y a une fusillade qui s'est produite en plein jour hier à Laval. Et là, il y a des images qui ont commencé à circuler. Ça a été filmé par des caméras de surveillance. On voit une voiture noire qui arrive à grande vitesse. C'est sur une rue résidentielle dans le quartier Chemedé. Et une des personnes à bord fait feu en direction d'un homme et l'atteint à la jambe. Et là, on voit le gars là, qui essaie de se sauver en courant, entre guillemets, sur sa seule jambe qui n'a pas été touché. Il y a une autre caméra de surveillance qui a capté les cris de cette personne-là et c'est assez effrayant. Et encore plus effrayant, là, c'est qu'à quelques pas de la scène, il y a deux jeunes enfants qui s'amusaient dehors et qui sont partis à courir en entendant les coups de feu. C'était la troisième fusillade en autant de jours à Laval et dans le quartier Chemedé à Laval. On va parler de tout ça avec Jean-François Roussel, assistant directeur aux enquêtes à la police de Laval. Monsieur Roussel, bonjour.
Bonjour, M. Lagacé.
Donc là, ce qui est arrivé hier, ce qui est arrivé les deux autres jours avant, est-ce qu'il y a lieu de penser que tout ça est relié?
Ben, je vous dirais pour le moment, là, mes enquêteurs travaillent vraiment d'arrache-pied pour passer à travers toutes les hypothèses possibles, mais il est trop tôt à l'heure actuelle, M. Lagacé, pour confirmer le lien entre ces événements-là. Mais ce que je peux vous dire, c'est que de toute évidence, là, l'hypothèse première, c'est que c'est relié au conflit entre gangs de rue.
C'est un conflit entre quelles gangs de rue?
Ben, c'est encore là un peu trop tôt pour rentrer dans les détails. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que sur le territoire, on a différentes gangs de rue. La première que je pourrais vous mentionner, c'est les Chemedé 45. Cette gang-là, on voit qu'ils ont plusieurs conflits, autant sur le territoire de Laval qu'à l'extérieur de Laval, donc à Montréal. Vous comprendrez que c'est pas la rivière qui les empêche de traverser l'autre bord, donc c'est directement relié dans le phénomène. Il y a également un autre groupe qu'on appelle les Flameds qui eux aussi est actif sur le territoire et qui sont en conflit avec les Chemedé 45.
Est-ce qu'on sait c'est quoi le conflit?
En fait, je vous dirais, à l'heure actuelle, ça peut aller dans tous les sens. Ça peut autant aller pour des territoires où on vend, par exemple, de la drogue, mais ça peut également aller dans des je vais vous dire ça comme ça, là, des banalités où certains conflits alentour, par exemple, d'une blonde d'un des membres, ou simplement parce qu'on s'est invectivé sur les réseaux sociaux. Là. Fait que c'est assez impulsif et assez volatile là, comme phénomène. Là.
Il y a une génération de ça là, au Québec. Il y avait des fusillades, ça se tirait dessus en pleine rue. Et c'était à l'époque la guerre des motards. La société a décidé à un moment donné que c'était assez quand il y a un jeune qui est décédé. Je me demandais, dans votre expérience, M. Roussel, là, est-ce que c'est plus difficile d'enquêter les motards ou d'enquêter les gangs de rue?
Bien, je vous dirais que c'est différent. Au niveau des motards, on les voit beaucoup plus structurés, beaucoup plus professionnels. Si vous me prêtez l'expression, là, dans le sens où ce qu'ils ont, ils ont certaines règles. De ce qu'on voit du côté des gangs de rue, beaucoup plus désordonnés, moins structurés, mais surtout beaucoup plus impulsifs, plus arrogants. C'est plutôt ça là, auquel on fait face actuellement avec le phénomène des armes.
OK. L'année passée, en 2021, sur le territoire lavallois, là, il y a eu combien d'incidents comme ça de décharges d'armes à feu?
On a eu 42 décharges. Je vous dirais, c'est un phénomène, nous, là, vraiment, là, qui a commencé à avoir le jour à partir de 2019. Mais c'est ça, l'année passée, c'était 42 décharges.
OK. Puis sur les 42, il y a combien de personnes atteintes, tuées ou blessées?
Donnez-moi 30 secondes. J'ai perdu le papier. Je vais vous revenir avec l'information dans ça sera
parfait.
Pas très long,
j'essaie d'avoir un ordre de grandeur, M. Roussel, à savoir, 42 événements en 2021 sur votre territoire à Laval. Il y a eu combien d'arrestations?
Ben, vous voyez, l'an passé, là, en lien avec le phénomène, on a eu 38 arrestations. Ce que je peux vous dire, c'est que déjà, à l'heure actuelle, donc depuis le début de l'année, on est rendu à 24 arrestations. On a également saisi 23 armes à feu pour un comparable de 10 l'an passé. Je vous dirais, on a mis beaucoup d'efforts, beaucoup de ressources en place. On voit les résultats. Évidemment, forcé d'admettre quand même que les armes sont présentes sur le territoire, là.
Oui, clairement. Quel type d'armes on utilise d'habitude?
C'est plutôt des armes de poing qu'on voit là, de différentes marques, là, mais un modèle qui vient souvent, là, c'est le Glock, là, qui est une marque d'armes à feu.
OK, vous avez saisi 23 armes à feu l'année passée. Êtes-vous en mesure, en les ayant à votre possession, de remonter la filière pour voir d'où ça vient, comment c'est entré au pays et comment c'est arrivé dans des mains de jeunes à Laval?
En fait, c'est cette année qu'on a saisi 23 ans, Monsieur Lagacé. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la difficulté, c'est évidemment de retracer les armes. Souvent, les numéros de série sont inexistants, ils ont été enlevés. La plupart du temps, par contre, ce qu'on constate, c'est que c'est des armes qui viennent des États-Unis.
Est-ce que c'est vrai qu'au laboratoire de sciences judiciaires où on analyse là, les balles qui sont saisies, les armes qui sont saisies, il y a vraiment un gros retard à cause du manque de personnel?
Ben écoutez, je pourrais pas commenter pour eux, mais c'est sûr que quand on demande des analyses, il y a un certain délai. J'ai pas le délai actuellement, mais oui, il y a des délais, là, effectivement.
Est-ce que ces délais-là retardent vos enquêtes?
Ça dépend. Je vous dirais, ça dépend où ce qu'on est rendu dans l'enquête. C'est sûr que des délais, évidemment, peuvent avoir des impacts sur les enquêtes. Ça va de soi, là, mais c'est pas nécessairement, dans certaines enquêtes, le seul élément qui nous retarde, là.
OK. Il y a eu beaucoup d'annonces, des millions de dollars qui ont été consacrés à des escouades. On embauche des policiers, on forme des policiers, on crée des équipes mixtes, etc. Au niveau des lois, M. Roussel, là, est-ce qu'il y a quelque chose qui manque à votre arsenal qui vous aiderait?
Ben c'est sûr que une des premières choses pour nous puis qui est important, c'est la sévérité des peines lorsque les gens se font prendre avec des armes à feu. Évidemment, si les peines sont trop clémentes, ben quand les gens sont libérés après avoir fait leur temps dedans, ben ça les décourage pas à recommencer. Le fait que ça, évidemment, c'est un enjeu pour nous.
Avez-vous un exemple?
Ben j'ai pas d'exemple concret là, mais je sais par la bouche de mes enquêteurs là, que c'est un enjeu là.
Mais c'est quoi? Est-ce qu'ils s'en tirent avec des années, avec des mois? Je sais qu'il y a déjà eu une époque où il y avait des peines minimales. La Cour suprême a décidé que c'était inconstitutionnel. Maintenant, êtes-vous en mesure de nous donner, je sais pas quoi, un ordre de grandeur sur les peines pour les gens qui se font prendre avec des armes à feu illégales?
Ben, comme je vous dis, je veux pas vous donner un événement erroné, une information dit erronée. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'évidemment, il peut y avoir des facteurs aggravants dans le dossier, il peut y avoir d'autres éléments, là. Fait que, mais les peines, je vous le dis, c'est un enjeu. Faut qu'ils soient dissuasives. Je vous dirais également, là, que notre directeur, là, a déjà sorti à cet égard-là, là. Puis c'est un élément qui est important pour nous, les services de police.
OK. Je veux pas tomber dans la rhétorique, mais j'ai posé la question au maire qui m'a répondu par oui à la question suivante. Est-ce que Laval est une ville sécuritaire?
Mm-hmm. Ben, je vais vous dire oui, mais je vais vous donner une explication. Évidemment, je vous dirais, si vous avez fait référence au début de l'entrevue, que les images sont choquantes, et oui, elles sont choquantes, je peux vous le dire. Je suis un père de famille, je vois une fusillade proche des enfants. J'aime vraiment pas ça comme responsable du secteur des enquêtes à Laval. Première chose que je peux vous dire à cet égard-là, on a déployé une stratégie la semaine passée. Je vous ai parlé des résultats qu'on a eus actuellement. On a 24 arrestations déjà. On a 23 armes de saisie. On a aussi des projets d'enquête qui fonctionnent. On a, il y a quelques semaines, fait le projet d'enquête d'Icon, qu'on a saisi 6 armes à feu, près de 2 millions de dollars en stupéfiants, près de 200 000 dollars en argent. On travaille, on est sur le terrain, on est présent, on a des résultats. Maintenant, je comprends très bien le citoyen présentement à Laval qui est dans le secteur où ce que ça l'a tiré, il se sent insécure. Moi, ce que je veux dire aux citoyens de Laval, c'est on ne lésine pas présentement sur les effectifs policiers sur le terrain. On est présent, on a pratiquement doublé à l'heure actuelle les effectifs sur le terrain. Je vous dirais que notre section Azimut est sur le terrain. Équinoxe est dans les établissements licenciés. La gendarmerie est là. Et du côté des enquêtes, je vous dirais, on travaille jour, soir et nuit depuis le premier événement pour arriver à des résultats concrets.
Merci d'avoir été avec nous. Bonne chance avec tout ça. On espère que ça va cesser rapidement, mais je pense que l'été va être chaud pour utiliser le cliché.
Tout à fait, monsieur. Merci beaucoup. Bonne journée.
Merci. À la prochaine. C'était Jean-François Roussel qui est chargé des enquêtes à la police de Laval. Il y a plusieurs prises de parole ces derniers temps concernant l'éducation et je parle pas d'espérer que nos jeunes soient dans des salles de classe bien ventilées. Là, on commence à sortir de tout ce qui est pandémique et on revient à la base, à l'école elle-même et à différentes solutions là qui sont proposées pour rendre nos écoles plus attrayantes, vivantes, égalitaires aussi. Je vous ai parlé récemment à ce micro là, de l'école La Ruche à Magog qui permet à tous ses élèves d'avoir accès à un projet études particulier là, pour exploiter une passion parascolaire. Tout ça rend l'école attrayante et stimulante. Ça motive les élèves. Aujourd'hui, belle histoire. Je suis content de la partager avec vous. On vous amène à Saint-Basile-le-Grand où il y a un enseignant d'éducation physique au primaire qui a fondé une ligue de hockey et ça va bien au-delà du sport. Vous allez voir, son projet est vraiment inspirant. Salut Martin Fabre.
Oui, bonjour, M. Lagacé.
Ben Martin, c'est votre collègue Sarah Deschêneau qui m'a mis au parfum de votre projet. Là, racontez-nous comment une simple ligue de hockey, je mets simple entre guillemets, a mobilisé votre école.
Ben en fait, ça faut comprendre que ça n'a pas toujours été aussi gros que ce l'est présentement. Mais là, quand j'ai commencé ça, c'était une petite ligue de hockey à 4 équipes, puis on était une dizaine de joueurs par équipe. Mais aujourd'hui, c'est rendu, on est 8 équipes, on est au-dessus de 125 joueurs. Autant de beaucoup de joueurs également, garçons-filles qui s'impliquent. Et au fil des années, j'essayais toujours de rendre ça plus intéressant, plus attrayant, d'impliquer même les parents, d'essayer d'innover le plus possible. Puis aujourd'hui, c'est rendu vraiment quelque chose qui fait que on a un gros sentiment d'appartenance, non seulement juste à la Ligue en tant que telle, mais je pense qu'à l'école, ça l'a donné vraiment une couleur, je crois, à l'école. Et je pense qu'on est reconnu comme étant l'école. Oui, l'école de la Mosaïque, c'est l'école de la grosse ligue de hockey. Fait que moi, je pense que c'est ça que je voulais faire un peu en arrière de ça, rendre l'école attrayante pour les jeunes qui aient le goût de venir à l'école à cause de ça.
Qu'est-ce que ça crée comme engouement d'avoir autant de joueurs, de joueuses qui jouent, là, sont 130, c'est un élève sur deux. Qu'est-ce que ça crée dans l'atmosphère à l'école?
Ben en fait, lorsqu'on est en pleine saison, on s'en sauvera pas quand on revient après un match. Ça se fait sur l'heure du midi, donc quand on revient, je vais reconduire les élèves dans leur classe. Mais là, tout le monde qui revient de l'extérieur, qui jouait pas ce jour-là, ils voulaient tout savoir c'est quoi le pointage. Alors là, les jeunes, ils ont tout. Là, j'ai remarqué ça cette année, ils prennent l'habitude d'écrire sur le tableau le pointage, les buts, qui a fait les passes. Puis là, ben présentement, on est dans les séries éliminatoires, fait que là, l'engouement est encore plus gros. Donc ça parle beaucoup de ça. Tous les jours, tous les midis, puis en plus, ben il y a une ligne de vêtements que j'ai même partie, fait qu'il y en a beaucoup qui portent leurs vêtements de, ça s'appelle la LHM. Alors les vêtements LHM sont très populaires, les gens les portent fièrement, ils portent les vêtements de leur équipe même. Alors oui, ça transpire hockey ici pas mal.
LHM pour Ligue de hockey de la Mosaïque, le nom de votre école.
Exact.
Ok.
Exactement.
Est-ce que j'ai compris que les joueurs joueuses ont leur carte de hockey aussi?
Oui, en fait, ça fait partie des innovations que j'ai amenées au fil des années. Je prends une photo individuelle de chaque jeune. J'ai une de mes amies collègues, Stéphanie, qui est très bonne en infographie. Donc, on fait un petit montage et on fait une carte de hockey que je m'inspire sur Internet. Puis j'ai des amis en imprimerie qui peuvent me faire des très belles cartes de hockey. Donc, ça fait un beau souvenir pour eux autres. Donc, à chaque fois qu'ils jouent dans la Ligue à leur saison, ils ont une petite carte de hockey personnalisée avec leur visage d'un côté et l'autre côté de la carte, mais c'est leur équipe. Alors, ils vont pouvoir s'en souvenir toute leur vie.
Pour parler en langage de hockey, Martin Fabre, là, je vais vous poser une question qui touche les intangibles, OK? C'est quoi le lien entre la moitié de l'école qui est mobilisée, motivée par l'implication dans le hockey comme ça, puis une certaine réussite scolaire?
Ben en fait, moi, de ce que... Il y a beaucoup de parents qui me donnent le témoignage suivant, c'est-à-dire que depuis que mon enfant s'est impliqué dans le hockey, le jour de match, il est content d'aller à l'école. Il est hors de question d'avoir un rendez-vous chez le dentiste ou chez l'optométriste. Ça ne fonctionnera pas. Puis comme je vous dis, c'est un travail vraiment avec l'équipe école ici. En début d'année, mes collègues me demandent tout. OK, tes journées d'hockey, c'est quand? Parce qu'il est hors de question de mettre une récupération le jour d'un match non plus. Alors, ils vont tous refignoler leur horaire pour ça. Puis on dirait que ça leur donne le goût de venir. Ils sont contents d'être là. Puis, j'imagine que le midi, bouger, faire d'exercice, je pense qu'il y a des études qui ont été dites et qui ont été faites là-dessus longtemps, que la concentration ensuite, ça aide à l'école. Fait que le fait de bouger puis de s'impliquer comme ça, je pense qu'ils ont, ils en bénéficient non seulement au niveau de leur santé, mais au niveau des réussites scolaires.
On s'entend là, Martin, vous n'êtes pas obligé de faire ça.
Non, vous avez raison, je suis pas obligé de faire ça en effet. C'est sûr que dans notre tâche, les enseignants d'éducation physique, on s'attend souvent à ce qu'on fasse un peu d'activité parascolaire, mais je vous dirais qu'il y a rien qui m'oblige de le faire probablement aussi gros que ce que c'est rendu en effet.
Pourquoi vous le faites?
Plusieurs raisons. Moi, j'aime ça. Je suis un amateur de hockey comme vous. Là, j'adore le hockey. Je suis le hockey. Et lorsque j'ai commencé dans le métier, c'est quelque chose que je voulais faire. J'avais une vision de faire une ligue dans ce sens-là. Puis au fil des années, j'essayais tout le temps d'amener quelque chose de nouveau. Je pense que un événement majeur que j'ai fait, c'est la page Facebook de la ligue, qui est un groupe privé, bien évidemment, où ce que les parents peuvent avoir accès. Et les matchs étant maintenant filmés depuis quelques années, grâce à des élèves responsable des iPads et qui filment, bien là, je peux tout publier, les faits saillants. Fait que c'était vraiment ça. Moi, je veux faire ça pour impliquer les parents le plus possible.
OK, mais écoutez, votre début de réponse, c'était « j'aime le hockey », etc. Vous pourriez être coach de hockey au civil. Mais là, Martin, ce que je veux dire par là, c'est que vous vous donnez du trouble et vous n'êtes pas obligé de vous donner du trouble. Pourquoi vous le faites?
La différence est là, c'est que vous utilisez le mot trouble, mais pour moi, c'est du plaisir. Je m'amuse à faire ça. J'ai beaucoup de parents qui me remercient à chaque année, les élèves qui me remercient. Moi, ça me donne juste le goût de trouver puis de continuer puis d'innover encore plus. Fait que, non, c'est pour moi, c'est pas du trouble, c'est un plaisir pour moi. Puis je vous donne juste une petite anecdote. L'année dernière, l'année COVID, on n'avait aucun parascolaire dans les écoles. Il aurait pu être permis de croire que ça aurait été une année plus tranquille, plus relaxe, voire même le mot. Mais non, pas du tout. Moi, ça a été une année très difficile moralement, professionnellement, parce que j'avais pas ce bonheur-là. J'ai réalisé que je carburais à ça, en fait. Fait que oui, moi, j'aime ça. Puis non, je suis pas obligé de le faire, mais je vais jamais arrêter de faire ça. Je m'amuse autant qu'eux autres. Là.
Mais Martin, dès avril 2020, là, quand on a tout fermé dans la société à cause de ce virus-là qu'on connaissait pas, les enfants pouvaient peut-être faire des activités physiques là de leur côté, mais vous avez mobilisé la communauté de l'école pour faire des rallyes. Expliquez en quoi ça consistait.
En fait, c'est que lorsque ça l'a fermé, moi, je voulais trouver une façon de faire bouger les enfants, les faire sortir dehors. On n'avait plus le droit vraiment de se voir en groupe, mais on pouvait quand même se croiser dehors. La marche était devenue une activité très à la mode. Alors, oui. Je me suis dit, comment rendre une marche agréable? C'est pas tout le monde qui aime ça aller marcher. Fait que là, je me dis, on va faire des rallyes. Alors, je me suis promené dans les rues de mon quartier, sachant qu'il y a beaucoup d'élèves qui habitent proche. Alors, j'avais organisé 3 rallyes où ce que les jeunes devaient suivre une feuille qui disait marcher sur telle rue, marcher sur telle. Il y avait des questions à répondre, puis c'était quelque chose qu'ils pouvaient faire en famille. Puis c'était ludique, il n'y avait pas d'évaluation ou quoi que ce soit rattaché à ça. C'était vraiment pour les faire sortir et les faire se voir aussi, qu'ils puissent se saluer, se rencontrer sans nécessairement faire des rassemblements. C'était pas permis, mais tu sais, en marchant dans la rue. Alors, je pense que ça va être quand même très apprécié, puis d'en offrir quelques-uns aussi pour pas qu'une fois que c'est fait, on n'en parle plus. Fait que oui, je pense que ça a été une belle activité. J'étais quand même fier de ça aussi.
Martin, c'est admirable ce que vous faites, saluer toute la communauté de l'école La Mosaïque à Saint-Basile. Merci d'avoir été avec nous.
Je vous remercie beaucoup, M. Lagacé.
À la prochaine. C'est Martin Fabre, enseignant d'éducation physique, qui a créé il y a 12 ans une ligue de hockey parascolaire. Tout le monde est admis. Hein? T'es bon au hockey, t'es pas bon au hockey, t'es dans l'équipe, gars, filles. Un élève sur deux participe et vous l'avez entendu, ça mobilise la communauté de l'école. Puis il y a quelques jours, je vous ai parlé d'autres projets dans d'autres écoles là, qui crée une chose, c'est que ça rend l'école plus stimulante. Je vous l'ai dit, là, rappelez-vous, quand vous étiez à petite école puis au secondaire aussi, si t'es super bon à l'école, là, ça se peut que tu te lèves puis que ça te tente d'aller à l'école. Mais bien souvent, tu vas à l'école parce que tes amis sont là, parce que il y a des projets particuliers qui t'attirent. L'école est pas toujours de façon là, inhérente, naturelle, stimulante. Il y a des élèves comme ça qui vivent des choses extraordinaires parce que des profs créent des projets qui sont absolument extraordinaires. C'est le cas de Martin Fabre, mais il y en a plein partout. Je vous dis, je ne sais pas s'il y a une ligne directe entre la réussite scolaire et des projets comme ça, mais juste si l'école est moins souffrante pour toi comme TQ, je pense qu'on y gagne tous et toutes.
Patrick Lagacé en accéléré.
La chronique monarchique du noble. Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques. Capité.
Salut Philippe.
Salut Patrick, ça va bien?
Oui, écoute, ça faisait longtemps, puis là on a des nouvelles à la fois réjouissantes et à la fois un petit peu plus inquiétantes en provenance de Buckingham Palace. On va commencer par la nouvelle inquiétante. Élisabeth n'a pas prononcé le discours du trône.
Oh non, je sais Patrick, puis tu sais hier tu m'as texté toute la nuit en me disant mais qu'est-ce qui se passe? Puis là je vais répondre à tes questions parce que ton inquiétude, je veux pas être plate, mais t'as raison d'être inquiet, Patrick. C'est quand même la première fois en 69 ans que la reine rate un palpitant discours du trône, parce que Dieu sait que, tu sais, en termes d'excitation, t'as la série Fast and Furious et les discours du trône. En tout cas, dans mon monde à moi. Et là, hier, la reine n'était pas là. Et là, ce qui rend la chose encore plus inquiétante, Patrick, ben, tu le sais évidemment, c'est quoi? Ben c'est ça, c'est que elle était censée y aller puis elle a annulé à la dernière minute lundi soir pour des causes de problèmes de mobilité. Mais là ça fait longtemps qu'on a la puce à l'oreille parce que mes espions à Buckingham auraient vu des installateurs de petites, tu sais les petits escaliers en chaise là qui montent le long des oui ben c'est ça les petits ascenseurs en... Ma grand-mère avait ça, puis visait autre chose pour la rapidité. Mais n'empêche que, apparemment, on en aurait installé quelques-uns à Buckingham Palace parce que la reine aurait de la difficulté à se déplacer. C'est ce qui aurait, entre autres, justifié son absence. Puis là, il y en a d'autres qui émettent la théorie que la couronne, qui pèse à peu près 2,5 livres, serait beaucoup trop lourde maintenant pour son cou.
Ça donne mal.
C'est vrai, ça, que la couronne pèse 2,5 livres?
Oui, parce que quand tu l'as sur, c'est pas comme un chapeau que t'insères, c'est que tu la déposes sur la tête, donc tu dois vraiment être et lire un papier comme, fait que tu peux pas vraiment bouger, fait que t'es un peu prisonnier de la couronne, littéralement. Puis apparemment, pour une madame de 96 ans qui a de la difficulté à monter des marches, tenir une couronne à bout de tête, c'est trop exigeant. Et lire un discours qu'on pourrait facilement, prescrire aux soins palliatifs, c'est vraiment quelque chose qui risquerait de la jouer. Fait qu'on envoyait la prime jeunesse, Charles, 73 ans, qui est arrivé vêtu, ben tout le monde l'a vu, j'imagine, ou pas, parce que vous avez une vie, là, mais en tout cas, en gros, il est arrivé avec son uniforme d'amiral.
Ah, il y a de la médaille après ça?
Hey, ben oui, puis c'est-tu quoi, MC? Zéro gagné au combat, c'est ça ses médailles commémoratives.
Ça, c'est arrivé par la malle, là.
Ouais.
Tu sais, les généraux dictateurs qui prennent pouvoir dans des républiques de bananes, ils ont aussi beaucoup de médailles, hein, sur le plastron.
Oui.
Mais là, il va falloir s'habituer, parce que si c'est lui qui est roi, là, ça va être plate de même pour au moins 20 ans, là.
Ah, un bon 20 ans, parce qu'il y a 73 ans quand même, Charles. Fait que c'est une recrue avancée, mais n'empêche que c'était un moment très émouvant de faire de la monarchie, parce que, hey, on se textait ça. C'était le premier discours de Charles depuis sa naissance. Fait que, tu sais, il y avait quelque chose d'un peu l'écolier qui a travaillé toute sa vie pour faire son exposé oral. Puis, verdict, il aurait pu un peu plus travailler parce qu'on sentait que quand il parlait d'électrification puis d'informatisation, il était un peu perdu. Par contre, il a quand même mentionné l'Ukraine, ce qui est une bonne chose.
Oui.
Puis après ça, il était accompagné de son fan club ou en tout cas de la relève, parce qu'il y avait Camilla à côté et il y avait Prince William. Et là, Prince William, lui, il avait l'air... Prince William avait l'air de nous tous, c'est-à-dire pourquoi on écoute ça. Puis Prince Charles y a été. Et là, Prince Charles, ça s'est pas super bien passé parce que la couronne, en fait, était là, mais pas le trône. Parce que ça a été une grosse affaire de confusion. On pensait qu'il était assis sur le trône, mais non, il était assis sur le trône de son père, habillé comme son père la dernière fois qu'il est venu. Fait qu'on sait pas si c'est une espèce de... un peu, tu sais, les gens qui se déguisent en Darth Vader pour aller voir le Star Wars. Peut-être que c'était ça la démarche, je sais pas. Mais en tout cas, il était habillé vraiment proche de son père, sur le fauteuil de son père, et la couronne était assise sur sa table, sur un coussin. Donc, bref, la couronne était représentée, Charles était là, la reine n'était pas là, et là, on commence à se demander pourquoi. Est-ce que ça annonce mal pour les fameuses célébrations de juin, là, le fameux, on en parle, là, j'ai un... Le Central Weekend Platinum Jubilee qui commence le 2 juin avec un défilé militaire avec 240 chevaux, moi je me peux plus, et 1200 officiers de cavalerie, bref, et là c'est suivi le lendemain par un palpitant service religieux, fait que là on se dit, est-ce que la reine va être capable de tenir 2-3 jours comme ça, fait qu'on se demande si elle est pas en train de cumuler ses énergies, en fait, pour passer au travers des palpitantes célébrations.
Et parlant de choses palpitantes, ben, tu nous mentionnais Charles. Charles s'en vient à Ottawa très bientôt parce qu'il va être investi comme, je cite, commandeur extraordinaire de l'Ordre du Mérite par notre gouverneur général du Canada à Rideau Hall. Une autre médaille à son plastron.
C'est parfaitement mérité, ça. T'sais, il a travaillé toute sa vie pour ce titre-là, quand même. Qui sert à... S'il y en a qui le savent, dites-le-moi, mais tu sais, c'est important. Puis, là, en fait, hier aussi, Charles, il est complètement dans le jus, débordé comme jamais dans sa vie, parce que, bon, il y avait le discours du trône, puis après ça, qui a quand même livré avec un espèce de charisme de gars qui pourrait imiter une tank à eau chaude. Puis là, aujourd'hui, il y a eu le fameux premier Garden Party à Buckingham. Et encore une fois, c'est pas pour continuer à faire des palpitations cardiaques aux auditeurs, mais la reine n'était pas là. Et là, ça commence à sentir vraiment la transition. Mais... là, ça commence à sentir la fin d'un règne. Puis moi, j'aime pas ça. Là. Je suis prêt là, pour la fin.
Catherine?
Oui, ben je voulais savoir si tu étais au courant que Tom Cruise aussi va être dans la grosse parade là avec les soldats et tout ça. Ça doit comme donner un petit peu plus de piment là, à cette cérémonie, non?
Ben oui, parce que en fait, c'est très particulier qu'il soit là. Lui, je sais pas c'est quoi le rapport, mais c'est important, visiblement. Ça vient rajeunir, j'imagine, parce que qui dit que Tom Cruise dit jeunesse. Mais c'est quand même une preuve d'ouverture qui s'est jamais vraiment vue, en fait, puis qui était même perçue comme étant, je dirais, vulgaire de la part de la famille royale. Fait que j'ai très, très hâte d'avoir l'incursion d'un Américain sur quoi là-dedans. Mais j'espère que la reine va être là pour saluer Tom Cruise, qui nous a quand même servi des films extraordinaires comme Vanilla Sky, puis Minority Report, parmi les grands films de sa filmographie.
Et Philippe, tu sais, on rit, mais Prince Charles est en bonne compagnie dans ce qu'on appelle l'Ordre du Mérite militaire, parce que il y a Julie Payette, notre ancienne gouverneure générale, qui a été faite commandeur extraordinaire elle-même de cet ordre par la reine elle-même.
Ben, tu vois, c'est ça, c'est juste du monde recommandable, fait que c'est parfait, parfait comme ça.
Merci, Philippe.
Ça fait super plaisir.
Salut, à la prochaine.
Patrick Lagacé, en accéléré.
C'est 23.